Donc, je vais vous parler de Jésus serviteur. Il y aura 5 parties, mais très, très inégales. D'abord, je vous annonce ces 5 parties. Hein. D'abord, les serviteurs dans l'Ancien Testament, de manière très générale. Après, les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a une petite nuance. Et puis après, le serviteur de Dieu, alors chez le prophète Isaïe en particulier. Ça, c'est les 3 premières parties. Et la 4e, c'est Jésus qui est le serviteur par excellence. Et la 5e partie, si on a du temps, nous les chrétiens qui sommes disciples du serviteur. Ça vous va, c'est à peu près clair. Bon, alors, avant ça, en fait, la question du serviteur, ça remonte à loin. Et vous savez ce qu'on attribue comme parole à Lucifer ? Non serviam, ça vous dit rien ? Non serviam, alors c'est je ne servirai pas. Non, je ne servirai pas. Alors ça veut dire aussi que le serviteur, derrière cette question du serviteur, il y a toute la question du péché où on refuse de servir Dieu. Voilà. Et donc Jésus qui nous sauve se fait le serviteur, c'est pas pour rien aussi. Hein, s'il obéit jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Bon, là, c'est juste l'introduction de l'introduction, mais on voit bien que le service, c'est quelque chose de beau, mais qui peut vite dégénérer en servitude. Là, je vais juste y venir, mais c'est la même racine en hébreu. Servitude ou service, c'est la même chose. Mais le glissement se fait très vite, en fait, à cause du péché. On voit bien aussi dans notre société, on n'aime pas les différences, on n'aime pas dans une communauté s'il y en a qui sont prêtes, il y en a qui ne sont pas prêtes, est-ce qu'il y en a qui sont les larbins des autres, ou est-ce que... Et ça peut arriver de fait parce que y a le péché, ou l'homme et la femme. Alors, on voit que la question du service, en fait, elle plonge les racines très profondes, en fait. Alors, dans l'Ancien Testament, donc, d'abord, de manière très générale, justement, serviteur et esclave, c'est le même mot. Serviteur et esclave. Ça traduit une situation de dépendance. Mais pour nous, c'est pas la même chose d'être esclave ou d'être serviteur. Mais à vrai dire aussi, on a Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, il parle d'être l'esclave de Marie. Alors nous, ça nous fait tout de suite, ça nous donne la chair aux deux poules et ça nous hérisse le poil. Mais on voit, là j'étais en Argentine et dans l'Angélus, on ne dit pas je suis la servante du Seigneur, je suis l'esclave du Seigneur. On dit. Alors nous, non, le serviteur, bon ça va encore, mais esclave, non. Mais dans l'Ancien Testament, c'est le même mot en fait. En sachant que dans le peuple de Dieu, ça se passe quand même différemment du monde païen. Parce que dans le peuple de Dieu, l'esclave, ça reste un homme. Ce n'est pas une chose. Il a sa place dans sa famille et il peut même devenir l'homme de confiance et l'héritier. Alors vous voyez avec Abraham, son serviteur, qui devient son héritier, au chapitre 24. Et du coup, voilà, le vocabulaire ne peut désigner des choses assez différentes. Dans l'Exode aussi, dans le livre de l'Exode, ça désigne l'esclavage et ça désigne le service. Et alors, il y a un beau livre qui a été écrit, c'est « De passer de la servitude au service ». Parce qu'ils sont dans l'esclavage à l'égard de Pharaon et Dieu les appelle pour venir servir. Alors, service, on voit tout de suite qu'il y a un autre nom qui entre le culte, etc. Mais au point de départ, que ce soit imposé ou librement, imposé dans l'esclavage ou librement si on est serviteur, il n'y a pas de différence dans le vocabulaire. Et au contraire, on voit que certaines fois, justement, le thème de serviteur, ça traduit plutôt quelque chose, un honneur d'être au service de quelqu'un. quand on est au service du roi, les officiers, etc., donc, ou dans la liturgie. Alors, ça, c'est déjà un autre... on voit dans le vocabulaire, il y a le service aussi peut désigner le service liturgique. Alors, ce n'est pas simplement le service liturgique, être l'enfant de cœur, si je puis dire, c'est adorer. Entre servir et adorer, le vocabulaire est très proche. Le service du vrai Dieu, c'est le culte, la liturgie, les actes rituels. Servir Dieu, c'est d'abord lui offrir des dons et des sacrifices et assurer l'entretien de son temple. Alors, donc, il y a les prêtres. Mais quand les prêtres viennent au temple, c'est pour servir Dieu. Donc, c'est l'adorer. Donc, c'est synonyme d'adorer Dieu. Et alors, toujours dans ce petit panorama un peu rapide dans l'Ancien Testament, dans les qualités du serviteur, je vais relever trois qualités qui nous paraissent presque une évidence, mais quelquefois ça ne fait pas de mal de rappeler des évidences. La première qualité du serviteur qu'on attend de lui, c'est son obéissance. On voit bien que Dieu il dit, bon, c'est bien vos sacrifices, mais est-ce que vous m'obéissez ? Le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein, vous connaissez cette parole qui revient dans la parole de Dieu, hein, dans le Deutéronome, dans un certain nombre d'endroits. Donc la première qualité, c'est l'obéissance qu'on attend du serviteur, c'est assez logique. Une deuxième qualité, c'est une sorte de, on pourrait dire, le dévouement, c'est un empressement dans le service. Parce qu'on sait bien qu'on peut obéir en traînant les pieds, parce qu'il faut le faire. Et puis, ou alors, on peut obéir de manière empressée. Alors, ce n'est pas la même chose d'être serviteur en traînant les pieds ou d'être serviteur avec le sourire. Et voilà, vous le voyez bien. Et du coup, j'aime bien ce livre que je vous ai dit avec ce titre, « De la servitude au service ». Parce que ce n'est pas seulement une question extérieure, c'est une question intérieure. Comment ? Parce que ce que vous faites chez vous, vous pouvez le faire dans un esprit d'esclave ou dans un esprit de serviteur libre. Mais vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas si vous connaissez La sagesse d'un pauvre, c'est un très beau petit livre d'Éloi Leclerc sur saint François d'Assise. Et à un moment, vous vous rappelez peut-être de Ruffin. Ruffin, alors c'est un noble cousin de Sainte-Claire qui est rentré à la suite de Saint-François. Il n'était pas très doué pour prêcher, donc il s'occupait plutôt des tâches domestiques. Bon, mais alors lui, à un moment, il pense qu'il est fait pour être ermite et tout ça, et puis du coup, puis avoir à servir les autres. Mais enfin, il se le cachait à lui-même. Et du coup, à un moment, dans ce très beau petit livre, justement, il y a un moment de conversion, justement, où il réalise que finalement, il était rentré, mais il avait gardé sa mentalité du monde. Et le bon Dieu l'appelait à passer de la servitude au service, en quelque sorte, de changer de mentalité. Et ça, c'est plus compliqué. Obéir extérieurement, déjà, ce n'est pas toujours facile, mais obéir intérieurement, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est plus exigeant aussi. Et puis, troisième qualité du serviteur, c'est celui qui va au-delà d'une obéissance extérieure formelle, c'est lui qui aime. Donc, le serviteur, c'est... Alors, ça rejoint un peu le sens précédent, mais... voilà, c'est une autre manière de se mettre au service des autres. C'est ce qu'a fait Jésus à notre égard. Voilà. Et du coup, ça implique une fidélité. Le serviteur, ce qu'on attend du serviteur, c'est qu'il soit fidèle. Hein. Vous avez à l'esprit ces passages de l'Évangile. Très bien, bon serviteur et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Hein, donc la fidélité, l'amour fidèle qui fait partie des qualités du serviteur. Alors, après cette première partie, vous voyez, elle n'est pas trop longue. Une deuxième partie, encore beaucoup plus courte, c'est les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, cette expression est donnée à des gens qui ont une relation très particulière avec le bon Dieu. Il y en a deux qui remportent la palme de la victoire, si on peut dire, enfin qui sont appelés le plus souvent serviteurs, c'est Moïse et le roi David. Plus de 20 fois chacun, on reçoit ce titre de serviteur de Dieu. Donc à ce moment-là, c'est plutôt un titre d'honneur, à ce moment-là, qui leur est donné, d'être serviteur de Dieu. Et ça indique plutôt un rapport heureux avec Dieu, celui qui obéit à Dieu, qui accomplit sa volonté. Alors bon, il y a Moïse, il y a David, mais on donne ce titre aussi à Abraham, Isaac, Jacob, Josué, aux prophètes, aux prêtres qui célèbrent le culte divin. Voilà. Mais je vous cite deux lignes de Jean-Paul II dans le message. Vous savez que le pape tous les ans écrit un message pour le dimanche des vocations. C'est le quatrième dimanche de Pâques, hein, le dimanche des vocations. Et en 2003, donc il y a 20 ans, Jean-Paul II écrivait ça. Le thème, c'était le serviteur, la vocation. Et voilà ce qu'il disait, entre autres. Dans l'histoire sainte, le serviteur est celui qui est appelé par Dieu pour réaliser une œuvre singulière de salut et de rédemption. Celui qui sait avoir reçu tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, et qui se sent donc appelé à mettre au service des autres ce qu'il a reçu. Et quand on parle de ce type de serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est toujours pour une mission. On est appelé pour une mission pour le peuple de Dieu. Ça, c'était la deuxième partie. Alors maintenant, ça va être la troisième partie, ça va être un peu plus long quand même. Là, je vais vous parler du serviteur de Dieu selon le prophète Isaïe. Ces grands chants du serviteur que nous avons entendus la semaine dernière, je crois qu'on donne ce titre depuis la fin du 19e, les quatre chants du serviteur du prophète Isaïe. Mais bon, ça date pas du 19e. Et alors, je me dis que ça vaut la peine de les relire un petit peu. Alors, ça va être relativement rapide, mais je ne vais pas vous lire in extenso tous les textes. Alors, je vous ai mis les références dans la liturgie. J'aime bien, c'est intéressant de voir aussi à quel moment la liturgie utilise, entre guillemets, tel texte de la parole de Dieu. Vous voyez que ces quatre chants du serviteur sont tous utilisés dans la semaine sainte. Le troisième, c'était le jour de la Passion, tous les ans. On change l'évangile, mais la première lecture est la même tous les ans. C'est le troisième chant du serviteur. Après, le lundi saint, c'est le premier chant. Le mardi saint, le deuxième chant. Et le troisième chant, il revient aussi le mercredi saint, d'ailleurs. Et le quatrième chant, alors ça, c'est celui qu'on entend tous les ans, le vendredi saint. Mais on l'entend à quelques autres occasions. Je pense, par exemple, au deuxième chant, on l'entend notamment le jour de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Et donc, pour montrer que, c'est le Seigneur m'a appelé, donc il y a un récit de vocation. Et le premier chant, il sert aussi pour le baptême. Alors, ce n'est pas fortuit, on y reviendra un peu plus loin. Alors, il y a une progression dans ces quatre chants. Donc, ils sont dans les chapitres, vous voyez, 42, 49, 50, 52, 53 d'Isaïe. Mais une vraie progression qui culmine avec le quatrième chant. Alors, le quatrième chant, c'est vraiment un sommet. Et j'essaierai de vous montrer comment il y a quelque chose de complètement nouveau avec ce quatrième chant. Voilà. Peut-être pour l'apprécier, pour mieux l'apprécier après. Donc le premier chant, c'est la vocation. Alors, on aime bien, ça donne quelques qualités du serviteur. Alors, ce thème me parle, nous sommes serviteurs de Jésus et de Marie. Alors théoriquement, en tout cas au moins, on devrait méditer et s'imprégner de ces chants du serviteur, ça serait la moindre des choses. Et ce qui est premier, donc, c'est il est élu de Dieu, il a été choisi par Dieu. Mais après, dans sa manière de faire, alors ça, c'est c'est très caractéristique, il persuade avec douceur, il ne condamne pas, hein, la mèche, alors comment. Voilà. La première chose, c'est qu'il est vraiment appelé, et puis après, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'atteindra pas la messe qui faiblit, et voilà. Donc on voit que. Alors c'est l'élu qui a toute ma faveur, bon, ça fait du bien de l'entendre, mais voilà. Et alors, ce qui est. Ce premier chant reprend aussi ce qui était dit du fils de David. C'est le fait d'établir le droit. Il proclamera le droit en vérité. Hein, jusqu'à ce qu'il établisse le droit. Ça, c'est caractéristique du roi. Hein, c'est une fonction royale. Et dans la deuxième partie, ça c'est assez caractéristique d'Isaïe aussi, on parle du Seigneur comme créateur des cieux. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais au point de départ, quand on dit dans le décalogue « tu adoreras un seul Dieu », il ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir d'autres dieux. Mais de fait, ils n'adoreront que le Seigneur. Mais avec Isaïe, ça change. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est pas simplement tu adoreras un seul Dieu, c'est il n'y en a pas d'autre que moi, tu peux chercher ailleurs. Je suis le seul. Hein. Et ça veut dire, par conséquent, il y a une vision aussi plus universaliste. Parce que du coup, le Seigneur, tous les hommes sont créés par Dieu. C'est pas, parce qu'au début, c'est un peu chacun, chaque peuple a son Dieu, et puis bon, c'est bon. Mais là, non, il y en a un seul pour tout le monde, hein, qui a tout créé, les cieux, et voilà. Et donc, il est la lumière des nations, hein, c'est une. Voilà, il est. Je fais de toi l'alliance du peuple, ça c'est plus pour les Hébreux, et la lumière des nations. Ça, donc, il y a une visée universaliste déjà dans ce. Ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport au premier. Ça dénote toute une. Déjà toute une progression aussi dans la foi d'Israël, ou qui s'ouvre. Et toujours un serviteur n'est pas serviteur pour lui-même, bien sûr, mais il est pour les autres. Quand on est choisi, on n'est pas choisi simplement pour soi-même, et puis voilà, pour son confort, et puis pour être le bien-aimé de Dieu et tout ça. On l'est aussi, mais c'est toujours pour les autres. Hein, on n'est jamais choisi comme chrétien contre les autres, mais pour les autres. Voilà. Alors ça, c'est quelques mots sur ce premier chant du serviteur. Je ne sais plus si je vous en avais parlé pendant la halte spirituelle sur les prophètes. Mais quand il y a une prophétie, souvent il y a un premier destinataire immédiat de la prophétie, ce que voyait Isaïe. Et puis après, ce que ne voyait pas forcément Isaïe, mais sa parole avait une portée beaucoup plus lointaine. Le premier destinataire, c'était sans doute Cyrus, le roi de Perse, qui était concerné par cet oracle prophétique. Cyrus, roi de Perse, c'est un roi païen. Alors c'est étonnant aussi, hein, un roi païen, mais qui est considéré, qui est même on lui attribue même le titre de Messie, hein, pour dire un roi païen. Alors qu'est-ce qui se passe là? Mais parce que jusque-là, le peuple d'Israël avait été en esclavage avec Nabucodonosor, etc. Mais c'était un esclavage, ils ont été déportés, etc. C'était terrible. Et Cyrus procède d'une manière complètement différente. Il leur dit, mais non, vous pouvez retourner chez vous et puis rebâtir le temple, etc. Donc il le considère comme un envoyé de Dieu. Et c'est beau de voir aussi que ça démontre aussi une ouverture d'esprit de considérer qu'un païen peut être l'instrument du salut. Voilà. Alors ça, c'est le premier chant du serviteur. Il y a déjà pas mal de, vous voyez, pas mal de choses qui sont dites déjà à travers ce premier chant. Le deuxième chant du serviteur qui est employé aussi pour la nativité de Jean-Baptiste, ça, on voit que donc Dieu l'a prédestiné dès le sein de sa mère. Alors donc ça s'adapte bien à Jean-Baptiste, mais ça s'adapte aussi à Jésus, bien sûr. Et donc, on retrouve dans ce champ des formules assez classiques des récits de vocation dans la Bible, en particulier ce qui était dit du prophète Jérémie ou de Jacob aussi. Là, on voit que ce qui est intéressant, c'est que son action est avant tout par la parole. Hein, c'est une mission vraiment prophétique. On voit aussi que son découragement, je me suis fatigué pour rien. Voilà, cette vulnérabilité du serviteur aussi qui... On le voit avec Jean-Baptiste, c'est vrai qu'il nous parle bien de Jean-Baptiste aussi, ce deuxième chant, même s'il parle encore plus de Jésus. Le troisième, je ne vais pas m'attarder davantage sur le deuxième chant. Le troisième chant qui est pris à la fois le dimanche des Rameaux et le mercredi de la Semaine Sainte. Alors là, déjà, il est déjà davantage question de la Passion, hein, c'est le dimanche de la Passion, les Rameaux. On voit, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Voilà. Et un peu plus loin, il dit même, j'ai rendu ma face dure comme pierre. Alors déjà là, dans ce chant, il y a des choses qui nous annoncent déjà la Passion de Jésus. Et vous vous rappelez, quand Jésus commence à se mettre en route pour aller à Jérusalem, qu'est-ce que nous dit, je crois que c'est Saint-Luc notamment, mais peut-être d'autres aussi, il nous dit, il rend sa face dure comme la pierre, ou il durcit son visage, je ne sais plus exactement comment l'expression exacte, mais ça se réfère clairement à ce cantique d'Isaïe. Ce qui est intéressant aussi dans ce troisième chant, c'est que le point de référence, c'est la Torah, c'est pas le temple. Alors ça, vous savez qu'avec l'exil, ils n'avaient plus de temple. Du coup, le point de convergence, on pourrait dire, du peuple d'Israël, c'était de lire la parole de Dieu. C'est là qu'a commencé la synagogue. C'est à la faveur, si on peut dire, de la déportation. Ben, du coup, ils se sont retrouvés autour de la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y avait plus de sacrifice possible, il n'y avait qu'un lieu pour le sacrifice, pour eux c'était le temple de Jérusalem. Donc on voit aussi que ça se réfère à une situation assez concrète, hein, ça correspond bien à la situation des communautés juives qui étaient dans la diaspora, donc qui n'étaient plus sur la Terre Sainte. Et du coup, on voit que l'écoute a beaucoup de place. Alors il y a le langage des disciples, et puis après, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Donc ça, c'est très caractéristique des Juifs qui ne sont plus en Terre Sainte, mais qui sont partis à l'extérieur. Et on voit aussi la souffrance qui est la leur. Là aussi, dans cette souffrance, il fait preuve de douceur. On peut identifier, alors le premier destinataire, on pourrait dire, de cette prophétie, c'est peut-être justement un prophète, comme Jérémie ou un autre, qui était persécuté par les fidèles de sa propre communauté. En fait, on pourrait imaginer que c'est intéressant de voir cet arrière-fond, qu'on rentre à la maison, tout est bien. En fait, non, pas tant que ça, parce que, bon, déjà, il y a eu quelques années, ils ont eu le temps de s'installer à Babylone, etc., d'avoir leurs petites habitudes, etc., une forme de confort. Là, on leur dit de revenir à Jérusalem, ils l'ont un peu mauvaise, il faut tout recommencer. Et puis, ils ne seront pas forcément bien accueillis sur place. Donc c'est pour ça qu'il y a une résistance. Le serviteur, il leur donne des indications de la part de Dieu, mais ils ne sont pas forcément prêts à les accueillir. Hein, donc voilà, un peu quelques références sur ce troisième chant du serviteur. Alors, déjà, ce qui apparaît dans ce... On voit la souffrance qui est bien présente dans ce... et qu'il persévère malgré la souffrance. Et Dieu est son appui dans la souffrance. Mais alors, maintenant, on arrive au quatrième champ. Alors ça, c'est le plus explicite de la passion de Jésus, on pourrait dire, le quatrième champ. Il est beaucoup plus long, vous voyez. Il fait presque la longueur des trois autres réunis. Alors là, il y a quelque chose de complètement nouveau avec ce quatrième champ. Ce qu'il y a de très nouveau, j'y reviendrai lourdement, c'est que la souffrance devient un instrument de salut. Il ne se contente pas de souffrir comme il peut, et d'avancer dans la souffrance, mais la souffrance devient un instrument de salut. Alors, il y a eu aussi un premier destinataire, justement, c'est ceux qui ont été déportés, et finalement, dans la déportation, qu'ils n'ont pas souhaité, bien sûr, ils ont découvert, alors il y a eu plusieurs générations, mais ça a permis de purifier leur foi, de les fortifier dans la connaissance de Dieu. Voilà, alors ça c'est peut-être, vous voyez, cette expérience de ceux qui voient que finalement la déportation c'est eu du bon. Alors on ne l'a pas désiré, ils ne l'ont pas voulu, mais que Dieu s'en est servi aussi comme pour les faire bouger. Alors ça c'était le destinataire immédiat, mais bon, je vais suivre d'un petit peu plus près. Alors d'abord la fin du chapitre 52, hein, « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ». Le verset 15 insiste sur le contraste entre la misère et la gloire, sur que le renversement est un peu inouï. « Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. » Et juste avant, c'est les deux versets. Le premier, c'est le 13, c'est « Il réussira, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. » Mais avant, la multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Et du coup, le verset 15, il montre la... Voilà, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, comment, pour faire ce lien entre la souffrance et l'exaltation. Ça, il y a vraiment un retournement de situation qui se passe, que les gens ont peine à comprendre. Alors après, on reprend la souffrance, etc. Et les versets 4 et 5, ça retourne la doctrine habituelle concernant la souffrance. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transféré, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Alors là, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau dans l'Ancien Testament. Ça détonne avec Job. Bon, il a beaucoup souffert, et puis après, il retrouve la prospérité, etc. C'est bon. Mais là, c'est pas la même chose. C'est la souffrance qui est utilisée par Dieu, en quelque sorte, si je puis dire, pour faire du bien. Une souffrance expiatrice pour les autres. La souffrance qui est vue comme un instrument du salut, dans la mesure, de la manière dont elle est vécue, bien sûr, hein, mais. Alors le verset 10, dans le verset 7 à 9, on voit un peu la contrition de ceux qui donc s'est inquiété de son sort. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Et le verset 10, ça en remet une couche, si je puis dire. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Et le verset 11 qui va « Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et il se chargera de leurs fautes. » On voit vraiment l'attitude intérieure. Et on voit le lien de causalité, en quelque sorte, entre la mort acceptée et la récompense. Alors ça, c'est quelque chose de très nouveau dans l'Ancien Testament, qu'en fait, les Juifs auront de la peine à intégrer, et les apôtres à leur suite. On le verra un peu plus loin. Parce que ça, c'est... Bon, on n'aime pas trop la souffrance, grosso modo. Hein. Je crois qu'on est tous pareils. C'est plutôt ça, en un sens. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, mais d'aimer dans la souffrance, c'est autre chose. Mais du coup, là, c'est quand même un vrai bouleversement qui est opéré. Là, ça reprend aussi l'image de l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Alors l'agneau, il y a deux symboles. L'agneau, ça reprend bien sûr l'agneau pascal. Hein, vous vous rappelez, on égorgeait un agneau, on mettait du sang sur les linteaux des portes pour que les gens soient protégés à la sortie d'Égypte. Mais le deuxième symbole de l'agneau, c'est justement celui qui est donné dans le serviteur. Et quand il y a Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu », il faut savoir que le même mot « agneau » signifiait en araméen, je crois, à la fois le serviteur et l'agneau. C'est « talia », alors je ne suis pas très doué en araméen, mais nous, on « voici l'agneau de Dieu ». Mais en fait, quand Jean-Baptiste dit cette parole, il se réfère sans doute plus au serviteur souffrant qu'à l'agneau de la Pâque. Et là encore, on voit cette souffrance qui devient rédemptrice. Alors, bien sûr, quand on le lit tous les ans le Vendredi Saint, ça parle vraiment de Jésus et de sa passion. Il y a des choses, c'est tellement parlant. Hein, de la passion de Jésus. Alors hier, l'évangile qui était proposé, c'était celui des disciples d'Emmaüs. Alors qu'est-ce qui se passe pour les disciples d'Emmaüs? Bon, ils sont un peu déprimés, hein, ça vous savez. Et qu'est-ce que fait Jésus pour les rejoindre? Est-ce qu'il leur dit... « Ouh, c'est moi, je suis ressuscité !» Bon, maintenant, arrêtez de pleurer, maintenant c'est bon, c'est passé. Est-ce que Jésus fait comme ça? Comment fait Jésus? C'est très intéressant de voir comment fait Jésus. Oui, et après... Au cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais en fait, je trouve que c'est très intéressant, parce que le problème, ce n'était pas de croire en la résurrection à ce moment-là, c'était de croire en la mort de Jésus, si je puis dire. C'était de croire que la mort, ça faisait partie du dessein de Dieu. Et ça, tant qu'il n'était pas passé par là, il ne pouvait pas accueillir la résurrection. Jésus aurait pu gesticuler tout ce qu'il voulait. Ils n'étaient pas en mesure de l'accueillir. Ils n'avaient pas fait leur deuil, si je puis dire. Benoît XVI dit une chose très intéressante. Vous êtes allé à la Vigile Pascale. Hein, et à la Vigile Pascale, on lit plein de textes de l'Ancien Testament. Hein. Alors là, on en a pour son argent, ce jour-là. Et est-ce que vous avez beaucoup de prophéties de la résurrection? Pas tant que ça, finalement, dans les textes. Pas tant que ça. Alors pourquoi? Alors, Benoît XVI nous dit une chose très intéressante, c'est que, en fait, bien sûr, il y a des prophéties de la résurrection, mais il faut bien ouvrir les yeux quand même pour les voir quelquefois et ouvrir son intelligence. Mais surtout, il y a le mot grec, c'est il y a un logos, il y a un sens. Et quelque part, l'idée de cette relecture, de toutes ces lectures pendant la Vigile Pascale, c'est de voir qu'il y a une cohérence dans la manière d'agir de Dieu. Et qu'il y a une cohérence, c'est pas par hasard que Jésus est mort. Il l'avait dit plusieurs fois, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il meure et qu'il ressuscite, mais eux, Non, non, ça t'arrivera pas quand même. Ils sont pas prêts à l'entendre. Mais tout ça, ça se réfère très précisément à ce quatrième chant du serviteur. Ils l'avaient pas intégré, ce quatrième chant du serviteur. Nous, je sais pas si on l'a intégré non plus, hein. Quand la souffrance arrive, on n'est pas forcément prêt à l'intégrer. Mais être prêt à intégrer que la souffrance fait partie du dessein de Dieu. C'est pas Dieu qui veut nous faire souffrir comme s'il était sadique, voilà. Pas du tout. Mais cette halte spirituelle fait la suite de la précédente halte spirituelle. La précédente halte spirituelle, c'était sur le Messie. Mais là, l'image du Messie qu'on aime tous, c'est le Messie glorieux, toi, qui écrase ses ennemis, et puis voilà. Et en fait, non, c'est pas cette image du Messie. Alors, ça en fait partie à la résurrection, bien sûr, mais pas d'une manière écrasante et un peu orgueilleuse, on pourrait dire. Non, ça passe par la passion, c'est le Messie souffrant. Et ça, c'est les chants du serviteur qui annoncent ce Messie souffrant. Mais on n'est pas forcément prêt à l'entendre. Et du coup, le soir de la résurrection, les disciples d'Emmaüs, ils ne peuvent pas croire en la résurrection parce que pour eux, ce n'est pas cohérent. Jésus n'aurait pas dû mourir. Non, ça ne colle pas. Ce n'est pas cohérent. Et justement, Jésus leur montre, si c'est cohérent, relisez un peu l'Écriture. Il est ressuscité selon l'Écriture. Mais bien sûr qu'il y a des passages de la parole de Dieu qui évoquent la résurrection. Mais avant tout, d'abord, c'est d'accueillir cette parole de Dieu qu'on n'est pas forcément aussi prêt que ça à accueillir. Alors, vous vous rappelez aussi du patron des autostoppeurs, Philippe. Ben oui, Philippe. Au chapitre 8 des Actes des Apôtres, ben vous connaissez ça par cœur, bien sûr. Qu'est-ce qui est en train de faire l'eunuque quand Philippe vient me trouver? Exactement. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, pars, va-t'en à l'heure du midi, là il fait chaud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Il faut être motivé pour aller faire de l'apostolat là-bas alors qu'il fait chaud et puis que c'est désert. Ils partent. Et justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape ce char. Philippe y courut et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe, il devait lire à voix haute, lui demandant, « Comprends-tu donc ce que tu lis ? Et comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant. « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui était déniée, sa prospérité, qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. » S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc ça, c'est le quatrième chant du serviteur qu'il était en train de lire. Et du coup, ça nous parle de Jésus. Donc, ce qui est intéressant, alors je m'en mêle peut-être un peu dans mes choses, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les premières générations chrétiennes, la toute première génération, les juifs, le premier titre qu'ils donnent à Jésus, c'est celui de serviteur. Si vous regardez, ce titre de Jésus comme serviteur apparaît deux fois dans le chapitre 3 et deux fois dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Et après, il apparaîtra un peu moins, parce que ce titre de serviteur, ça... parler à ceux qui avaient un bagage juif, hein, qui connaissaient bien le prophète Isaïe, mais quand ils s'adresseront aux païens qui ne connaissent pas du tout le prophète Isaïe, ils vont employer plutôt d'autres termes pour désigner Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, voilà. Mais le Seigneur, parce que ça parlera davantage aux païens. Mais les premiers mots, c'est plutôt celui de serviteur. Ça me paraît assez lumineux pour moi de voir que la résurrection, elle n'a aucun sens sans le Vendredi Saint. Accueillir le Vendredi Saint, du coup, voir que ça n'a pas échappé, ça n'a pas échappé au bon Dieu, ça faisait partie. Alors, bien sûr que spontanément, on préfère la voie de la gloire au Messie glorieux plutôt que le Messie souffrant. Voilà, on est tous pareils. Mais, voilà. Alors ça, c'était sur le serviteur d'Isaïe. Maintenant, j'en viens à Jésus qui est le serviteur par excellence. Alors, ça revient souvent de diverses manières. Alors, on le voit dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, hein, le cantique hein, aux Philippiens que vous connaissez. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est prenant la condition de serviteur. Voilà. Alors, je vais prendre, je crois, 10 endroits dans le Nouveau Testament où on évoque Jésus comme serviteur. Le premier que je vais prendre, c'est un peu rapide et bon. Le cantique de Siméon. Qu'est-ce que dit Siméon quand il prend Jésus dans ses bras ? Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. C'est une citation d'Isaïe, ça. Donc, c'est le serviteur qui présente au monde à ce moment-là. Je détaille pas davantage, mais on n'est pas assez pétri de l'écriture quelquefois pour que ça nous saute aux yeux ou à l'oreille, comme ça. Un deuxième passage, c'est le baptême du Seigneur. Les mots « En toi j'ai mis tout mon amour », ça renvoie au cantique du serviteur, le premier, hein, le 42. C'est pour ça que cette lecture est prise pour le baptême du Seigneur pour l'année A. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, voilà ce qui est dit du baptême. Le baptême de Jésus, c'est, de sa part, l'acceptation et l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. Il est déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Déjà, il anticipe le baptême de sa mort sanglante. Il vient déjà accomplir toute justice, c'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il accepte par amour le baptême de mort pour la rémission de nos péchés. Donc, au baptême, déjà, tout ce thème du serviteur souffrant, alors, à travers quelques mots, c'est encore le catéchisme à un autre endroit. Après avoir accepté de lui donner le baptême à la suite des pécheurs, Jean-Baptiste a vu et montré en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il manifeste ainsi que Jésus est à la fois le serviteur souffrant qui se laisse mener silencieux à l'abattoir et porte le péché des multitudes, et l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël lors de la première Pâque. Toute la vie du Christ exprime sa mission, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça doit être Benoît XVI qui dit ça. Jésus consent par avance à descendre dans les grandes eaux de la mort, portant sur lui le poids de toute l'humanité qu'il récapitule en lui, afin que l'amour vivifiant du Père puisse nous rejoindre et nous relever en ressuscitant ce Fils qu'il ne peut abandonner à la mort ni laisser connaître la corruption. Mais c'est qu'après coup que les apôtres vont voir dans le baptême une annonce de sa mort et de sa résurrection. Il descend dans l'eau de la mort pour ressusciter. Voilà. Alors ça, c'est un deuxième passage. Après, il y a, au fil de l'évangile, quand Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude », clairement, on est dans ce thème du quatrième chant du serviteur. Quand il se présente comme doux et humble de cœur, c'est vraiment déjà le premier chant du serviteur. Jésus guérit beaucoup de possédés, il expulse les esprits, tout ça, et Matthieu ajoute, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Ça, c'est encore le quatrième chant du serviteur. Bon, je rentre pas dans les détails parce que Matthieu change un tout petit peu le texte, mais bon, peu importe. Et puis après, on voit que ce qui est dans la mission du serviteur, c'est de faire la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Hein. Donc le Fils de Dieu est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Donc c'est vraiment cette obéissance du serviteur qu'a vécu Jésus. Et dans la transfiguration, vous savez qu'il y a deux parties dans l'évangile, pour être un peu schématique. Une première partie où Jésus fait plein de miracles, tout ça, c'est sympathique de le suivre. Et c'est la grande popularité, bien sûr, quand on fait des miracles. Et puis, à partir du moment où il commence à annoncer sa passion, il faut que le Fils de l'homme... Alors là, il y a moins de monde qui le suit à ce moment-là. Il y a toujours ce terme « il faut que ». Alors, c'est un peu mystérieux, ce « il faut que ». Mais c'est à partir de ce moment-là où on voit que son destin se joint à celui du serviteur souffrant d'Isaïe, hein, dans la deuxième partie de l'Évangile, qui conduit vers Jérusalem et vers la mort et la résurrection. Après, il y a toujours ce thème du serviteur qui revient dans le lavement des pieds, bien entendu. Quelque part, il anticipe. Vous savez bien que le jeudi saint, le lavement des pieds et l'Eucharistie du jeudi saint, c'est pour anticiper en quelque sorte que Jésus va vivre le lendemain sur la croix. Sur la croix, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas trop libre. On l'a attaché, tout ça. Mais en fait, le jeudi saint montre que c'est vraiment librement qu'il donne sa vie pour nous. C'est pas, il le dit aussi à Saint-Pierre à plusieurs reprises, mais mon père pourrait envoyer 12 légions d'anges pour me délivrer. Donc, c'est pas parce que je suis contraint et forcé par les hommes, mais c'est volontairement. Ou au début de Saint-Jean, avant le lavement des pieds, sachant que son heure était venue, sachant ce qui allait lui arriver. Donc, Saint Jean montre bien que Jésus n'est pas fou, il sait bien ce qu'il est, mais c'est librement qu'il avance vers sa passion. Hein, donc, c'est l'esclave contraint et forcé qu'on pousse l'épée dans le dos, c'est librement qu'il se donne. Dans la passion de Jésus, alors, les coups, les outrages, les crachats, c'est ce qui est indiqué au verset 6 du troisième chant. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Et dans l'annonce de sa passion, Jésus reprend ces trois choses, les coups, les outrages, les crachats. Vous trouvez ça dans Saint Marc, par exemple. Chapitre 10, versets 33 et 34. Aussi, vous connaissez, alors c'est une hymne qu'on chante, un cantique qu'on chante le dimanche soir pendant le carême. C'est de la première épître de Saint Pierre au chapitre 2. C'est pour vous que le Christ a souffert, il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, ne rendait pas insultant la souffrance, il ne menaçait pas. Et du coup, dans ce que dit Saint Pierre, c'est une paraphrase d'Isaïe, un des différents cantiques d'Isaïe, notamment du chapitre 50 et du chapitre 52-53. Alors, au moment de la mort de Jésus aussi, clairement, on fait référence au cantique du serviteur. Et comme je l'évoquais déjà, c'est après la résurrection justement que ce titre de serviteur va être mis à l'honneur et ça donne la clé de lecture de la cohérence entre la passion et la résurrection. En fait, on ne célèbre pas d'une manière séparée en quelque sorte le Vendredi Saint et Pâques, ça forme un unique mystère, hein, c'est ce qu'on appelle le mystère pascal, hein, de passer par la mort et de ressusciter. Et du coup, c'est ce qui est décrit aussi dans l'Épître aux Philippiens, là, que j'ai commencé à lire tout à l'heure. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu un homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc ça, c'est le vendredi saint. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dans l'Apocalypse, il y a aussi un agneau qu'on voit dans l'Apocalypse, hein, l'agneau est avec les sept sceaux, etc. Mais ça fait référence aussi au serviteur souffrant, un exégète, André Feuillet, qui montre comment ça se réfère vraiment à ce serviteur qui est à la fois immolé et à la fois vainqueur. Alors, c'est un peu rapide, mais montrer comment Jésus est vraiment ce serviteur, le serviteur qui a été annoncé par le prophète Isaïe. Et nous, à sa suite, on est appelé à se mettre à sa suite en le prenant pour modèle. Alors, c'est Jésus nous le dit à deux reprises au moins dans le chapitre 13 de Saint Jean. Hein, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Les versets qui précèdent l'épître aux Philippiens dans Saint Paul, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et après, c'est là que commence l'hymne. Alors, ça revient de multiples façons dans l'Évangile. « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, voilà. Et Jésus se présente en modèle aussi à suivre comme serviteur. Alors, quelques qualités du serviteur. Se mettre au service des autres. Dans les Galates, par exemple. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Vous pouvez avoir à l'esprit, par derrière, passer de la servitude au service. Hein, si on est libéré comme enfant de Dieu, ce n'est pas pour une liberté égoïste, c'est pour se mettre au service les uns des autres. Ou alors Saint-Pierre, encore. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Ça revient constamment, ce service mutuel qu'on est appelé à se donner. Une autre qualité du serviteur, qui est de se mettre au service des autres, mais aussi c'est une forme de disponibilité. C'est Saint Paul qui dit encore, « Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. » En premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Quelque part, on ne peut pas attendre non plus que les conditions soient parfaites pour se mettre au service. Voilà. Comme on est. La fidélité du serviteur. Vous trouvez ça chez Saint Matthieu. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Il l'établira sur tous ses biens. Une autre qualité du serviteur encore, c'est l'oubli de soi, le détachement. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun d'entre vous pense à celui des autres. Alors, une grande qualité du serviteur, c'est l'humilité. Vous connaissez l'homme le plus humble que la terre ait porté? C'est Moïse, hein, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça, au chapitre des Nombres. C'est sa sœur et son frère qui étaient jaloux de lui. Vous vous rappelez de l'épisode avec Myriam et Aaron. Et du coup, c'est le bon Dieu qui les convoque tous les trois. Et qu'est-ce que vous avez à critiquer Moïse? Et du coup, après, Myriam est toute lépreuse. Alors du coup, elle doit demander à Moïse, fais quelque chose, parce que... Et voilà, elle est purifiée. C'est au début du chapitre 12 du livre des Nombres. Mais cette humilité du serviteur, c'est Moïse, c'est dans l'Ancien Testament avec David, c'est vraiment un de ceux qui porte ce titre de serviteur de Dieu. Mais il y a toujours cette humilité. Une autre qualité encore du serviteur, c'est pas comparer, c'est faire son travail, mais pas faire ce qui nous revient. Voilà. Et comme conclusion, je pense que le service nous ouvre à la joie. Là, il y a une citation de Albert Schweitzer, qui était protestant, il me semble, mais qui dit cette chose. Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. Et la liturgie nous dit que servir Dieu, c'est régner. C'est pas forcément dans l'air du temps. On a l'impression que service, en se mettant en position de serviteur, on est un peu, on s'abaisse. En un sens, c'est vrai qu'on s'abaisse, mais c'est vraiment une source de joie, je pense, de se mettre au service des autres. Une source de joie, c'est la joie de Pâques, mais qui peut passer aussi par le Vendredi Saint. Mais voilà, c'est. Je pense que dans le service, il y a vraiment une trouvaille. Alors, je peux vous citer un extrait encore de Jean-Paul II, dans ce fameux message pour les vocations en 2003. Chers jeunes, servir est une vocation tout à fait naturelle, car l'être humain est naturellement serviteur. Il n'est pas maître de sa propre vie et il a besoin à son tour de nombreux services d'autrui. Servir est une manifestation de liberté par rapport à l'envahissement de son propre moi et de responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et servir est possible à tous à travers des gestes apparemment petits mais grands en réalité, s'ils sont animés par un amour sincère. Le véritable serviteur est humble, il sait qu'il est inutile, il ne recherche pas ses intérêts égoïstes, mais il se dépense pour les autres en faisant l'expérience de la joie, de la gratuité dans le don de soi. Voilà. Alors voilà, donc... Pour le serviteur. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Allez-y.
Oui, j'avais une petite question parce que pour vous, c'est ça des chants. Est-ce que c'était sans
Dieu? Je ne sais pas.
Vous avez des chants, est-ce que c'est des textes?
Alors, il y en a qui les appellent des poèmes aussi. Alors, c'est peut-être dans la manière dont ils sont écrits, je ne sais pas s'ils étaient forcément chantés, mais dans la manière dont ils étaient écrits, il y a quelque chose d'assez poétique qui détonne peut-être avec les versets qui précèdent et qui suivent, où c'est moins poétique. Je ne sais pas s'ils étaient pris comme des psaumes, d'ailleurs... je ne suis pas sûr qu'il soit repris comme cantique de l'Ancien Testament. Dans les cantiques qu'on a dans la liturgie des heures, ils n'en font pas partie, autant que je sache, que je me souvienne. Donc je ne suis pas sûr, mais chant, ce n'est peut-être pas le mot le plus indiqué, vous avez peut-être raison. C'est peut-être plus des poèmes, une manière d'écrire un peu particulière. Oui.
Est-ce que vous pensez que la relative discrétion de Jésus quant à son état de serviteur allant jusqu'à la mort, elle peut s'expliquer aussi par le fait qu'il ne fallait pas que Satan soit au courant de cela, parce que sinon il aurait pu empêcher Jésus de mourir, enfin de baptiser.
Ce qu'il fallait pour que Jésus ne soit pas notre sauveur. Je ne pense pas, parce que Satan, justement, lui, c'est tellement contraire à ce qu'est Satan, cette manière de s'abaisser, que Satan ne comprend pas cette manière de faire. Donc, ça, il ne comprenait pas. Donc, au contraire, c'est quand même lui qui a mené les choses, qui a inspiré Judas, qui a inspiré les... Donc, mais pour lui, Satan, il n'est pas assez doué pour ça. Pour être plus intelligent, il faut être plus humble. Et Satan, quelque part, cette humilité, pour lui, c'est inconcevable. Pour lui, c'est inconcevable. Quelle stupidité de mourir comme ça. Satan, c'est plutôt montrer ses gros bras et tout ça. Donc non, Satan, il ne comprenait pas. Il ne peut pas comprendre cette manière de faire de Jésus. C'est justement là, je crois, que Jésus a été vainqueur aussi de Satan et du mal. Parce que Satan, oui, pour lui, ce n'est pas concevable. Lui, il ne peut pas s'humilier, Satan. Ce n'est pas dans sa manière de faire. Donc ça, ça lui échappe. Si pour lutter contre Satan, les plus grandes armes, c'est la prière, c'est l'humilité. Là, il n'a pas de prise, il n'a pas de prise. Il n'a pas de prise parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre.
Donc, il ne risque absolument pas de croire que Jésus était le sauveur.
Ah non, de toute façon, il n'en voulait pas, hein. Il voulait supprimer Jésus, hein, c'est tout. Mais il n'a pas imaginé qu'en le supprimant, justement, Jésus nous sauvait. Là, il s'est fait avoir. Mais non, il n'imaginait pas. C'est trop loin de ce qui... Non. Qu'est-ce que Satan pouvait savoir? C'est vrai que Satan ne se projetait pas dans la résurrection pour lui. Lui voulait avoir raison. Puis c'est un peu comme nous, on s'entête à vouloir avoir raison et tout ça, mais on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, et puis on ne voit pas que finalement ça mène à une impasse. Hein, mais donc Satan, non. Alors, s'il avait imaginé qu'il pourrait être vaincu comme ça, alors là, il, bien sûr, mais lui, il ne pouvait pas l'imaginer, en fait. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il n'imaginait pas que par la passion, justement, Dieu puisse nous sauver. Ça, c'était... Ben oui. Exactement. C'est ce qu'on voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. C'est un peu l'humour, ou je ne sais pas comment dire, de Dieu. C'est que justement, vous voyez dans l'histoire de Joseph, et de ce point de vue-là, Joseph, le patriarche de l'Ancien Testament, c'est une figure de Jésus. Ses frères veulent se débarrasser de lui. Bon, ils le vendent, etc. Et puis finalement, ils sont sauvés précisément par ce frère qu'ils ont vendu. C'est la manière de Dieu de retourner les calculs humains, les calculs mesquins et tout ça, Dieu qui retourne les choses. Et dans la résurrection, c'est ça. Nous, on voulait se débarrasser de Jésus, ou voilà. Et puis justement, Dieu s'est servi de ça, Dieu tire un bien du mal, hein, c'est saint Paul qui dit ça. Mais ça, c'est la manière de faire de Dieu. Vous revoyez les premiers versets du... Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. C'est inouï, ils n'avaient pas... Alors là, ce n'était pas venu au cœur de l'homme. Ça, c'est un coup du bon Dieu qui a... Alors, il y a les paroles de la transfiguration aussi. Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. Alors, ça fait référence plutôt à Isaïe 42, verset 1. Hein, oui, voilà, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Donc, ça fait référence indirectement, et à partir de ce moment-là, il y a déjà l'annonce de la passion juste avant, que je reprenne, toc. Première annonce de la passion, juste avant la transfiguration. Après, il y a la transfiguration qui, justement, est donnée pour voir qu'au-delà de la souffrance, il y a la gloire de Dieu. Mais là, ils ne comprennent pas. Et puis, quand ils redescendent de la montagne, c'est pas ici, c'est dans Saint-Marc, je pense. où il leur dit, comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation tout en se demandant entre eux ce que signifiait ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est dans Saint Marc, chapitre 9. Donc, oui. 2003, vous tapez Jean-Paul II, serviteur 2003, vocation.